Ce 20e Radio Bac de notre 16e saison, Gérard Forcada voit pour cette troisième partie une interview, ce que j'appelle moi côté face. On aime bien connaître un petit peu plus notre invité, un peu plus dans le détail. Alors Gérard Forcada, vous aviez été l'invité de cette émission il y a 4 mois environ, je crois, au début, courant octobre. Alors entre-temps, maintenant, il est passé 4 mois de plus, avec une plus grande expérience, j'imagine, hein, puisque vous êtes au four et au moulin au quotidien.
Tout à fait.
Première question, justement, avec un peu plus de mois, quelques mois en plus de recul, comment voyez-vous la fonction que vous occupez aujourd'hui ? Pas de regret, en tout cas, de l'avoir occupée.
Certes pas, non. Aucun regret. Bien au contraire, de l'enthousiasme et je dirais avec l'ambition de réussir pour ma ville. Réussir tous les projets que nous avons, que nous portons, et je dirais en affrontant le quotidien, comme tout un chacun peut l'affronter dans son élément naturel, qui est la vie professionnelle ou la vie politique également. Et j'apprends effectivement le temps administratif aussi.
Oui, la longueur administrative, parfois, souvent même. Mais vous apprenez aussi alors des choses qui sont pas toujours agréables, il faut le dire clairement. Par exemple, l'opposition qui s'oppose, c'est normal, s'oppose parfois de façon virulente ou pas toujours très fine, ça irrite un peu, non ?
Oui, ça irrite.
Ça fait partie du job.
Mais oui, je sais que ça fait partie du job, la critique, bien entendu. Mais bon, je la laisse pour ce qu'elle est pour la plupart du temps. J'en tire quelques enseignements, c'est tout.
Oui. Bon, grande philosophie à ce niveau-là.
Mais disons que je ne veux pas donner plus d'importance à des choses qui n'en ont
pas.
J'aime plutôt débattre de sujets qui ont de l'importance pour la collectivité et qui font avancer effectivement non seulement le débat, mais les projets, l'environnement et les choses qui sont dans le concret, plutôt que dans la philosophie et surtout pas dans l'idéologie, comme certains se plaisent effectivement aujourd'hui à avancer. Pour moi, ça m'apporte absolument rien.
Mais ça change quand même votre vie considérablement, parce que c'est un rythme.
Oui, je vois moins souvent mon épouse,
c'est un fait. Par exemple.
Mais c'est un rythme que j'imprègne aussi à mon chef de cabinet, à mon premier adjoint, à mes autres adjoints évidemment, et qui forme et qui soude l'équipe.
Oui.
C'est important, je dirais, dans la vie professionnelle que j'ai eue aussi, d'avoir une équipe soudée, d'avoir une équipe solide, et avec un objectif, je dirais, bien clairement défini, à atteindre.
Et la difficulté pour vous, pour beaucoup d'autres, c'est toujours pareil, c'est une fois qu'on a le pouvoir, on a l'autorité, on a parfois, je dis pas volontairement, peut-être involontairement, parfois tenté d'en abuser, d'imposer des choses. Où en êtes-vous dans cette philosophie-là ? Parce qu'on en voit des gens qui, nouvellement élus, se considèrent comme un peu plus malins que les autres, si vous me permettez l'expression. Or, c'est pas comme ça que ça doit marcher, si je comprends bien.
Oui, mais j'en connais aussi qui ont été élus depuis longtemps et qui ont toujours la même philosophie, hein, mais c'est pas la mienne. Donc, vous savez, je tire l'enseignement aussi de mon expérience professionnelle privée.
Oui, vous avez fait une carrière dans la banque, je crois.
J'ai fait une carrière dans la banque, j'ai géré des départements, j'ai géré des ressources humaines. On peut faire plusieurs métiers, c'est l'avantage d'être dans une grande entreprise qui peut vous offrir plusieurs orientations sur toute une carrière, et c'est ce que j'ai eu la chance effectivement de faire, et de mettre en contact aussi avec beaucoup d'autres, je dirais, activités, actions dans tous les domaines. Quand on touche à la banque, on touche à la finance, et fatalement à tous les secteurs de l'activité économique. Et ça apporte une richesse effectivement de recul aussi nécessaire, et d'expérience également, donc que je revendique également. Mais je dis bien, rentrer dans ce monde politique, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Vous le savez, hein, je n'ai jamais été encarté. J'ai mes idées, certes, mais je n'ai jamais été élu dans quelque instance que ce soit. Mais j'en tire aussi un enseignement, avec le recul que cela m'impose à prendre également, pour le temps de la réflexion et aussi le temps de l'écoute, notamment parce que je m'entoure de personnes qui me permettent effectivement, en termes de conseils, de m'apporter aussi un éclairage sur la partie politique et administrative.
Parce que vous le disiez vous-même, Gérard Forcada, vous avez une longue carrière dans la banque, donc dans le privé.
Oui.
Là, vous êtes dans l'administratif et vous le disiez, vous le sous-entendiez vous-même, il y a parfois des longueurs administratives qu'on a moins dans le privé.
Ah,
on
oui.
est un peu plus réactif quand même.
Ben oui, de l'action, on peut passer à la réflexion, certes, mais surtout à l'action aussi. C'est vrai que il y a, je dirais, des étapes qui sont incontournables dans le public, dans le public, oui, c'est ça. Mais je me dois de les respecter.
Oui,
ça fait partie.
Il y a des règles qui sont des lois.
De la règle du jeu, en quelque sorte. Donc, je suis pas là pour changer les lois ni les règles. C'est pas de mon ressort. J'ai pas de temps à perdre. Je me consacre beaucoup plus, je dirais, à l'action directe pour mettre en place tout ce dont. J'ai prévu, effectivement, avec mon équipe, de réaliser.
Et est-ce que vous avez déjà, comme certains maires, une vision de la nécessité d'aller au-delà d'un mandat? Pas forcément pour des raisons politiciennes ou de carriérisme, mais beaucoup de maires que j'ai entendu dire disent, bon, premier mandat, on apprend d'abord, on essuie les plâtres. Et si on veut réussir ce qu'on avait envie de faire, il faut 2 voire 3 mandats. Est-ce que vous êtes déjà dans cette logique-là?
Je m'inscris de toute façon dans le temps parce que dans les projets que nous avons, je demande toujours effectivement de mettre un calendrier en place, que ce soit aux élus qui impulsent effectivement les projets que nous avons et qui les portons, mais aussi bien sûr à tout le personnel de fonctionnaires qui interviennent en tant que professionnels dans la mise en œuvre. Et dans ces calendriers, fatalement, quand on prend des grands chantiers, on imprime les années 2020, 2025, 2030, et fatalement, je ne serai pas dans le premier mandat. Donc aujourd'hui, je ne m'inscris pas, moi, politiquement, dans la durée de façon politique-politicienne, je m'inscris dans la durée économique. Celle de la réalisation des projets.
Oui, mais en étant conscient que souvent un mandat passe vite
bien
et
sûr.
Puis que, eh bien, la meilleure façon de ne pas reprocher à son successeur de faire la continuité, c'est d'assurer soi-même
Absolument.
La continuité.
Tout à fait. Dans la mesure du possible, je dirais que je m'inscris dans la réalisation. Donc, partant de là, si la santé est là, c'est l'essentiel d'ailleurs.
Oui.
Sinon, sans ça, on ne peut rien faire. Hein. Je ne mets pas de limite, je dirais, dans un temps, quel qu'il soit. De toute façon, quand je m'engage dans une action, je ne regarde pas la limite du temps. Il faut la réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on imprime dans chaque projet un calendrier, qui est un calendrier théorique, bien entendu. Parce qu'après, tout dépend des formalités et des modalités,
voilà,
et notamment des moyens financiers.
Il y a beaucoup de prévus et d'impromptus.
Voilà.
Et alors, à quel moment, justement, vous qui étiez dans le privé, comme beaucoup de gens, à quel moment avez-vous alors peut-être ressenti un déclic ou une volonté, justement, d'aller voir un petit peu de l'autre côté du miroir ce qui s'y passe?
Ah ben, je pense m'être exprimé sur ce sujet déjà, à plusieurs reprises. C'est... quand j'ai pris ma retraite, donc, en 2016, et en revenant vraiment à Lézignan, puisque j'avais ma maison familiale, et plus mes parents, bien entendu, ni mes beaux-parents, et dans le constat que j'ai fait de l'état de la ville, c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il faut que notre Lézignan soit possible.
C'était mon slogan de campagne.
Notre Lézignan, voilà. Oui, c'est possible.
C'est un défi que vous ressentez d'un seul
coup.
Tout
à fait. C'est un défi. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, je ne peux pas me soumettre, je dirais, à abdiquer devant un obstacle. Je me dois de l'affronter. Donc, avant de dire qu'on a perdu une bataille, il faut la livrer. Et là, je me suis engagé en politique. Je me suis engagé dans l'action. Et je me suis engagé, effectivement, pour changer les choses.
Voilà, et comme disait je ne sais plus qui, les seules batailles perdues sont celles qu'on ne livre pas.
Tout à fait.
Un dernier mot, Gérard Forcada. Je crois que vous nous aviez dit la dernière fois que vous étiez amateur de peinture, vous aviez un goût pour la peinture.
Oui, aussi, oui, bien sûr. Mais je ne peins pas, hein,
en tant qu'amateur d'art. À Lézignan, il y a eu un endroit, la Maison Gibert, qui est, alors c'est pas une galerie, mais enfin qui fait beaucoup d'expositions de peinture depuis pas mal d'années. Est-ce que là-dessus, vous avez un projet particulier qui vous tient à cœur pour les années qui viennent?
Alors, des projets, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, puisque je vous disais tout à l'heure, dans le premier chapitre, que j'avais l'intention d'embaucher donc une jeune doctorante dans un contrat, dans le cadre d'un contrat CIFRE, justement pour la culture, pour dynamiser la culture et pour lui donner une dimension autre que ce qu'elle a aujourd'hui, qui est, à mon sens, trop restreinte sur Lézignan et malheureusement, je crois, trop dédiée, je dirais, au troisième âge. Je voudrais qu'elle s'exprime pour toutes les populations, pour toutes les générations. Et justement, ça devrait nous y aider, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse effectivement à la culture en général, à l'art, quel qu'il soit. Et je dirais que l'objectif que je lui ai donné, c'est de ne pas mettre de tabou et de ne pas mettre de limites. Par sélection, je dirais, naturelle, quand on aime quelque chose, on peut repousser les autres. Là, je veux qu'au contraire, on fasse l'agrégation de cet ensemble pour offrir à toutes les générations la possibilité et la capacité de créer d'exprimer un art, quel qu'il soit, de quelque nature que ce soit. Et pour ça, on va mettre les moyens à Lézignan pour arriver à créer des lieux de rencontre, à créer des lieux de création d'expression le plus large possible.
Voilà. Donc, cet aspect-là sera un des volets du plan de relance, petite ville de demain, dans lequel va s'engager la ville de Lézignan.
Absolument. La partie économique, bien sûr, est importante, c'est évident. Ça, on l'a déjà dit. Mmh. Mais la partie culturelle. D'ailleurs, à la mairie, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on n'avait pas de pôle d'activité relatif à la culture et au sport.
Il n'y avait pas de ministre de la culture.
Non, c'était pas structuré de telle façon qu'on puisse développer tout ça. Donc ça me fait défaut aujourd'hui. Ça fait partie de ce que je vais mettre en œuvre pour m'entourer effectivement de personnes, bien sûr, compétentes dans ce domaine-là, dans ces domaines, et pour pouvoir, je dirais, poursuivre une dynamique qui est déjà assez importante au niveau des associations hein, lésignan, mais il faut aussi arriver à organiser, à orienter et à offrir tout un tas de possibilités à toutes les générations.
Voilà, que les Lézignanais le sachent, il y aura bientôt un ministre de la culture lézignanais qui fera peut-être un Malraux, qui sait, Lézignanais. Merci en tout cas, Gérard Forcada, d'être venu. Alors, une petite conclusion pour que vous rappeliez quelles sont les valeurs sur lesquelles vous battez aujourd'hui.
Oui, ce que je disais, c'est que pendant toute l'action de campagne, j'avais pris comme slogan d'ailleurs, un autre Lézignan. Oui, c'est possible. Et je dirais qu'en conclusion, je souhaite que l'on puisse dire de Lézignan, ici, le possible devient réel.
Voilà, c'est là-dessus qu'on conclut. Merci encore Gérard Forcada.
Merci Jacques-Claude Jules.
Le prochain invité sera Nicolas Sainte-Cluc, conseiller municipal d'opposition à Narbonne, également d'ailleurs conseiller départemental, qui viendra eh bien nous parler justement de ses intentions et de ses ambitions. Nous recevrons un petit peu plus tard le maire de Sigean également, Michel Jam, et puis comme toujours, de nombreux invités pour la suite de ce Radio Barc. Merci aux auditeurs d'être restés en notre compagnie. Merci Gérard Forcada.
Merci à tous.
Et à tous, à la semaine prochaine.